le magazine des Nations Unies.
Octobre 1945, 24 octobre 2015, les Nations Unies ont accompli 70 ans de leur existence. 70 ans pour 55 ans de relations avec la République démocratique du Congo. En RDC, la MONUSCO et l'ensemble du système onusien, ainsi que les autorités congolaises, ont célébré l'événement le vendredi dernier à Kinshasa, après une série d'activités organisées dans la semaine. Le magazine des Nations Unies consacre sa page d'actualité à cet événement universel. Beaucoup reste encore à faire en RDC en matière de droits de l'homme, malgré les efforts réalisés. Affirmation de la haute commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme. Le pays est passé en peine fin à l'examen périodique universel à Genève, où s'est tenue la 28e session du Conseil des droits de l'homme. Le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a pris part à ses travaux. Il est l'invité de notre magazine de ce dimanche. 52 millions de dollars américains, c'est le montant du financement de la Banque mondiale dans le projet de la réhabilitation de l'aéroport de Goma. Les travaux ont été lancés le mardi 20 octobre dernier. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à ce magazine. Dans tous les pays du monde, le drapeau national est un signe de fierté et de patriotisme. Mais il y a un seul drapeau qui appartient à tous. Ce drapeau bleu de l'Organisation des Nations Unies était une bannière d'espoir pour moi pendant mon enfance dans une Corée en guerre. 70 ans après sa création, l'Organisation des Nations Unies demeure un phare pour toute l'humanité. C'est un extrait du message du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à l'occasion du 70 ans de la Charte des Nations Unies, un événement célébré à travers le monde et en RDC. Et il rappelle de nombreuses réalisations des Nations Unies pour la promotion de la paix et de la sécurité, le développement durable et le droit de l'homme. À Kinshasa, le représentant spécial AI du secrétaire général de l'ONU pour la RDC, M. David Gressler, a présidé la cérémonie officielle de cet anniversaire. C'était le vendredi 23 octobre au siège de cette institution et en présence de plusieurs personnalités politiques, diplomatiques et de la société civile. Mais avant vendredi, les coordonnateurs du système des Nations Unies en RDC, Mamadou Diallo, a loué les rôles que le Congo joue au sein des Nations Unies et les bénéfices que ce pays a aussi tirés de cette organisation mondiale. Le propos de Mamadou Diallo, tenu le mercredi au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa, est recueilli par Honoré Missenga.
La RDC est un membre important du système des Nations Unies qui contribue au débat et aux décisions qui guident et orientent l'action de cette organisation internationale, qui a bénéficié au cours des années d'un accompagnement de longue durée du système des Nations Unies, à la fois dans les questions de développement, dans les questions d'écologie et de protection de l'environnement, dans les questions de sécurité et du maintien de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de ce pays, mais également dans toutes les autres questions qui visent à permettre à ce pays de jouer son rôle de géant en Afrique centrale et en Afrique, mais également des membres importants du système des Nations Unies. Au moment où nous préparons à célébrer le 70e anniversaire des Nations Unies, je redis qu'on ne peut pas trouver de meilleur lieu pour faire cette célébration et lui donner le cachet et la visibilité qu'il mérite que la République démocratique du Congo et en l'occurrence la ville de Kinshasa où nous avons la chance de nous trouver aujourd'hui.
Toujours dans le cadre de la célébration des 70 ans des Nations Unies, les agences de l'ONU œuvrant en RDC et la MONUSCO ont organisé jeudi dernier une journée porte ouverte à l'intention d'une quarantaine de jeunes, essentiellement des étudiants. Quelle idée la jeunesse s'est faite des Nations Unies après la visite des installations de la MONUSCO et des Radio Capi? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis de l'ONU? Jean-Pierre et Lali Coco a approché quelques-uns et recueilli leurs avis et suggestions. Suivez.
Je réponds au nom de Mado Sakaji, étudiante en droit en deuxième année de licence à l'Université de Kinshasa. En réalité, lorsqu'on parle des Nations Unies et qu'on voit la MONUSCO, on a une autre idée, mais pas celle que je viens de découvrir aujourd'hui. En visitant les installations des Nations Unies, principalement la radio Okapi, je me suis rendu compte d'une grande chose, c'est que la radio Okapi apporte plus que la population congolaise pense. Entre autres, avec le magazine qu'ils ont, ils rendent service à la population congolaise et pour la jeunesse, il y a plusieurs programmes qu'ils ont organisés pour apporter un plus. Pour nous, les étudiants, je pense que les Nations Unies, la MONUSCO principalement, devraient être un appui pour la formation de la jeunesse.
J'ai exaucé Kifouema, finaliste en sciences économiques à l'Université de Kinshasa. Oui, mon idée change de parce que je connaissais la MONUSCO plus rattachée à la politique. Mais je la vois aujourd'hui, après la visite, qui s'intéresse vraiment au social congolais, de par ses émissions sur la radio Okapi. Et je vois que le programme il est tellement attrayant que si nous prêtons attention, nous Congolais, nous serons mieux informés de ce qui se passe actuellement dans la République démocratique du Congo que ce que nous diffusent nos propres chaînes qui sont un peu en cachette. Oui, je crois que déjà l'initiative d'aujourd'hui marque un premier pas où l'on associe les jeunes d'abord à découvrir ce que fait la MONUSCO en RDC, parce que nous avons l'idée qu'elle est purement politique, qu'elle est venue pour renforcer la sécurité, mais nous voyons qu'il y a plein d'autres choses que la MONUSCO peut faire par les jeunes et à travers les jeunes.
Kétiros, je suis en première année en faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa. Je trouve que ces installations sont bien placées parce qu'ils parlent de beaucoup de sujets clés qui touche la société, les enfants, et je pense que c'est bien parce que là, on ne se sent pas écarté des Nations Unies. On trouve qu'ils sont vraiment présents ici, dans notre pays.
Je suis Kiba Diyala, collège Sainte-Christine, je suis en 5e année de biochimie. Comme message aux Nations Unies, c'est qu'elles puissent renforcer encore plus de formations à propos de la promotion des droits des enfants en aire des Congo.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Restons encore dans la célébration des 70 ans d'existence des Nations Unies, cette fois pour comprendre en grande ligne comment est née et fonctionne cette grande machine des relations internationales. Pour cela, nous avons fait appel à Florence Marshall. Elle est coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies en RDC. Elle répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala. Suivez.
Florence Marshall, bonjour.
Bonjour.
Les Nations Unies ont atteint leurs 70 ans d'existence. La charte ayant donné naissance à cette organisation mondiale a été signée à San Francisco le 26 juin 1945 avant d'entrer en vigueur le 24 octobre. De la même année, un petit recul, qui sont les signataires de cette charte ce 24 octobre 1945 ?
Ce sont 50 États, en fait, qui sont les signataires de la charte en 1945. 50 États qui avaient été invités par la Chine, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et les États-Unis. Replaçons-nous dans le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale, donc par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ces 50 États représentaient à l'époque 80% de la population du globe.
50 États signataires de la charte des Nations Unies. Qu'est-ce qu'ils se fixent comme objectif en mettant en place cette organisation?
Édifier un monde meilleur, c'est un très bel objectif, et que tous les êtres humains puissent vivre une vie décente d'hommes libres. Et comme le rappelle le secrétaire général Ban Ki-moon dans son message diffusé cette année à l'occasion de la journée des Nations Unies, les valeurs intemporelles de la charte des Nations Unies doivent demeurer notre guide. Alors quelques valeurs, le respect des droits fondamentaux de l'homme, la dignité, l'égalité des droits des hommes et des femmes et des nations, qu'elles soient grandes ou petites, le maintien de la justice, le respect du droit international, le progrès social, la tolérance, la paix et le progrès économique et social. Mais si on résume, c'est édifier un monde meilleur.
Oui, alors une organisation mondiale est en place depuis le 24 octobre 1945 avec 50 membres. Quelles sont les conditions d'adhésion pour les autres membres qui viendront après?
Alors, à ce jour, il y a 193 membres, donc on voit qu'on est passé de 50 à 193, donc effectivement, il y a un processus d'adhésion qui est rodé et qui est mis en place. En fait, c'est l'Assemblée Générale, sur recommandation du Conseil de Sécurité, qui décide d'admettre des États candidats à l'adhésion. Alors, tout est encadré, le Conseil de Sécurité examine la demande, et il faut un vote favorable de 9 des 15 membres du Conseil, dont celui de l'ensemble des 5 membres permanents.
Donc, l'adhésion n'est pas automatique?
Absolument pas, absolument pas. Donc il faut d'abord donc un vote favorable de 9 des 15 membres du Conseil de sécurité et avec un accord des membres permanents. Et puis ensuite, si cette étape est franchie, une recommandation est soumise à l'examen de l'Assemblée générale. Et là encore, on a fixé les conditions. Un vote favorable de l'Assemblée à la majorité des deux tiers est nécessaire pour admettre un nouvel État dans l'organisation. Et l'adhésion prend effet le jour où la résolution correspondante est adoptée.
Vous parlez de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, il s'agit là des organes de l'ONU. Quels sont les organes principaux de cette organisation ?
Alors effectivement, il y a le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale qui sont les plus connus, qui sont soutenus par le secrétariat. Et puis on a aussi le Conseil économique et social, la Cour internationale de justice et le Conseil de tutelle qui a été mis un petit peu au repos parce qu'il concernait à l'époque les territoires sous tutelle. Mais voilà les organes principaux de l'Organisation des Nations Unies.
Oui, pour le moment, consacrons-nous à deux organes, l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. En grande ligne, comment fonctionnait d'abord l'Assemblée générale, notamment en termes de périodicité dans des rencontres et de prise de décision?
Alors, chaque année au mois de septembre, il y a le début d'une session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Actuellement, nous sommes entrés dans la 70e session. Et donc, cette session se déroule à peu près jusqu'au mois de décembre. Il y a un ordre du jour avec un débat ou des questions importantes telles que les recommandations relatives à la paix, à la sécurité, mais aussi les questions budgétaires. Il est important de savoir que c'est l'Assemblée générale qui examine et approuve le budget de l'organisation. Chaque État membre dispose d'une voix et les décisions importantes doivent être prises à la majorité des deux tiers des États membres.
Venons-en maintenant au Conseil de sécurité. D'abord, comment est-il composé ?
Le Conseil de sécurité, son mandat figure dans la Charte des Nations Unies, puisque c'est lui qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il est composé de 15 membres, dont 5 membres permanents, qui sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, la Chine, les États-Unis, la Russie, la France et les Royaumes-Unis, et 10 membres qui sont élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 2 ans, à savoir la République démocratique du Congo a été élue déjà à 2 reprises membre du Conseil de sécurité sur la période 82-83 et 90-91.
Pourquoi les membres permanents ont le droit de veto ?
Alors, effectivement, il faut qu'on se replace dans le contexte d'il y a 70 ans où la création de l'Organisation des Nations Unies était directement liée au conflit, aux deux guerres qui avaient embrasé le monde au XXe siècle et l'idée c'était de plus jamais cela. Et les rédacteurs de la charte avaient voulu que les principaux pays continuent de jouer un rôle de premier plan dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. On était dans un contexte de vraiment tout de suite après la guerre en 1945. Et aujourd'hui encore, ces 5 pays ont un statut privilégié de membre permanent du Conseil de sécurité et ils ont un droit de vote qui est connu sous effectivement le nom de droit de veto. Il suffit que l'un de ces 5 membres permanents émette un vote négatif pour qu'une résolution, une décision ne puisse être adoptée.
Donc c'est un privilège donné aux vainqueurs.
C'est un privilège donné aux vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale et évidemment le monde a évolué depuis et ça fait quelques années que l'Organisation des Nations Unies, ses États membres, ont entamé un processus de réforme afin que le Conseil de sécurité soit peut-être représenté de manière plus équilibrée. Récemment, on peut indiquer qu'il y a eu un veto, par exemple, sur la situation en Syrie. Dans le passé, il y a plusieurs décennies, il y avait eu des vétos sur la question de l'Afrique du Sud ou encore de la Palestine.
Donc on peut dire que c'est ce droit de veto qui ne permet pas de résoudre certains problèmes qui sont à travers le monde.
Parfois, effectivement, ce droit de veto, qui correspond une fois encore à une réalité d'il y a 70 ans, est un frein à la résolution de conflits contemporains.
Florence Marchal, merci.
Merci bien.
Commençons ces nouvelles en bref par le Bureau conjoint des Nations Unies, en partenariat avec la Commission nationale des droits de l'homme, l'ambassade de France, le Centre Carter et l'ONG internationale Diakonia, a lancé le mercredi dernier la 2e édition du grand jeu concours d'art oratoire sur le droit de l'homme. Ce concours est ouvert à tout étudiant âgé de 30 ans au plus et inscrit en 2e licence pour l'année académique 2015-2016 dans une université légalement reconnue en RDC. Objectif, offrir l'opportunité aux jeunes étudiants de mener des recherches académiques et d'étudier de manière approfondie le pouvoir des sujets de droits de l'homme. Ce concours, qui est à sa 2e édition, offre différents prix aux lauréats, dont des ordinateurs et une bourse d'études en Master 2 dans une université française. des formateurs de la UN Police, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, de la CENI et de la PNC ont animé des sessions de recyclage en sécurisation en faveur des cadres et agents de la police nationale congolaise dans les secteurs de Bukavu, Kalemi, Kisangani, Lubumbashi et les sous-secteurs de Masisi, Moba et Manono. Au total, 413 agents de tous grades y étaient attendus, dont 19 femmes. Terminons ces nouvelles en bref par les lancements le 17 octobre dernier à Kinshasa de la campagne « Investissons dans la paix ». Campagne organisée par la Commission d'intégrité et médiation électorale CIMÉ qui rassemble différentes confessions religieuses, voire des églises de réveil. L'objectif est de sensibiliser et d'encourager la population, les acteurs politiques et sociaux et économiques à s'engager en faveur de la préservation de la paix sociale tout au long du processus électoral en RDC. Les artistes congolais participent à cette campagne en proposant une vente aux enchères de leurs œuvres en vue de soutenir le déploiement de cette campagne à travers tous les territoires.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'examen périodique universel 2015 a vécu à Genève. Le 29 septembre à Genève, la haut-commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Flavia Panthierry, s'est adressée au Conseil des droits de l'homme pour évoquer la situation des droits de l'homme en RDC. De progrès ont été enregistrés, mais beaucoup reste encore à faire en RDC, a-t-elle déclaré, notamment en matière des libertés d'expression et d'opinion et du droit électoral. José Maria Aranaz, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies, a pris part à ces travaux. Il nous fait l'économie des discussions sur la situation des droits de l'homme en RDC. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
José Maria Aranaz, bonjour.
Bonjour.
Le Conseil des droits de l'homme s'est tenu à Genève. Vous avez participé aussi à cette réunion. La RDC était aussi au cœur des discussions. Madame Panthierry, la haut-commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme, s'est adressée au Conseil. Que peut-on retenir, Monsieur José Maria Aranaz, des observations sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo au cours de cette session?
Merci à Radio Capi pour l'intérêt dans toutes les matières relatives aux droits de l'homme à la RDC. La situation des droits de l'homme à la RDC a été examinée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Le ministre de la Justice et des droits de l'homme a représenté le gouvernement de la RDC. Les Nations Unies étaient représentées par le haut commissaire adjoint et moi-même. Il y avait tous les pays membres du Conseil des droits de l'homme et aussi les membres de la société civile qui ont eu la possibilité de présenter les préoccupations et aussi les analyses de la situation des droits de l'homme à la RDC. C'était un examen régulier, mandataire par le Conseil des droits de l'homme.
Non, c'est chaque année.
Chaque année, c'était sur le mandat du Conseil des droits de l'homme.
Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, des observations qui ont été faites?
Premièrement, le Conseil a examiné l'impact de l'assistance technique et le renforcement des capacités données pour la communauté internationale à la RDC. C'était la première partie de la réunion de travail. La deuxième, c'était faire l'examen de la situation actuelle des droits de l'homme à ce moment.
Allons étape par étape. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'appui technique qu'on peut apporter à la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo?
À la session de l'année passée, le Conseil des droits de l'homme a demandé d'avoir une étude compréhensive de toute l'assistance technique et renforcement des capacités qui a été mise en place pour la communauté internationale comme d'une partie de l'effort pour donner l'appui aux autorités de la RDC. C'était constaté que beaucoup de progrès a été fait, mais qu'il y a encore des efforts à continuer. L'aide doit être sur les points plus stratégiques et dans une manière plus durable. De toute façon qu'il faut continuer à renforcer la capacité des autorités et de l'État de la RDC afin de contribuer à l'amélioration des droits de l'homme dans les pays.
Et lorsque vous parlez des renforcements des capacités, c'est par la formation par exemple?
C'est la formation, c'est l'appui matériel, training, ça veut dire le renforcement des cadres légaux. Il y a aussi l'appui financier aux institutions, mais on pense que la situation de la RDC mérite l'appui, mais surtout l'appui de formation plus que l'appui de financière directe.
Parlons des progrès qui ont été réalisés et qui ont été constatés lors de ces conseils de droits de l'homme. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, bien entendu.
Le Conseil des droits de l'homme, je pense d'une manière presque unanime, a conclu qu'il y avait des progrès depuis l'année passée. Les progrès concrètement, c'était dans la nomination de la Commission nationale des droits de l'homme. C'était un pas très très important. L'autre progrès, c'était l'adoption des plans d'action pour combattre la commission de violences sexuelles par les forces armées. C'était une initiative gouvernementale très très importante. La troisième, c'était l'adoption d'une loi relative à la poursuite des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité. Aussi, les initiatives prises récemment par les ministres de la Justice pour diminuer la population carcérale, la libération des détenus qui étaient de manière préventive au-delà du cadre temporal légal, et aussi ce qu'ils sont dans une mauvaise condition de santé.
Alors là, je pense que ce sont des avancées. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché dans le pays l'année dernière et cette année?
Je pense que le Conseil des droits de l'homme a montré de toute façon que même s'il y avait des progrès, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le Conseil des droits de l'homme a montré la préoccupation, surtout des aspects qu'il faut souligner. La première, c'était la restriction de l'espace politique et la violation des libertés et des droits fondamentaux qui ne sont pas seulement dans les textes des droits de l'homme international, mais même aussi dans la constitution congolaise. Les droits de la liberté d'information, d'expression et d'association surtout, et la liberté en général. Et ça c'est préoccupant parce que les pays se préparent pour entrer dans une période électorale.
José Aranaz, vous pouvez citer des cas concrets de ces libertés qui sont restreintes ici en République démocratique du Congo?
Oui, nous sommes donné un mandat précis du Conseil de sécurité des Nations Unies dans la résolution de la MONUSCO qui nous donne un mandat pour documenter toutes les violations des droits de l'homme qui sont en relation avec les processus électoraux à l'avenir. Et on a constaté depuis le début de l'année 143 violations des droits de l'homme qui sont des relations directes et d'impact sur la crédibilité d'un processus électoral à l'avenir. 143. Seulement dans le mois de septembre, on a documenté 18 violation des droits de l'homme qu'ils sont des relations avec les processus électoraux. Et ça, c'est que c'est intéressant. Le mois passé, ces violations des droits de l'homme s'étaient concentrées surtout sur les membres du parti de l'opposition. C'était une préoccupation qui était partagée par tous les membres du Conseil des droits de l'homme et qui était réfléchie dans la résolution finale adoptée. L'autre chose, c'était bien entendu la question de la lutte contre l'impunité. Même s'il y avait beaucoup de progrès, on a documenté par exemple les derniers mois 44 membres des FARDC et 6 membres de la PNC,
Police nationale congolaise.
De la Police nationale congolaise, oui, qu'ils ont été chargés pour les cas de violation des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme a montré une préoccupation pour la question de la lutte contre l'impunité et a constaté aussi que les efforts n'est pas suffis. Il faut prendre action décisive pour éradiquer l'impunité, même si ça affecte violation des droits de l'homme commis ou instructés pour les officiers de grade supérieur.
José Maria Aranaz, Radio Capi, vous remercie de votre disponibilité.
L'aéroport de Goma au Nord Kivu aura bientôt un nouveau visage avec le lancement mardi dernier des travaux de réhabilitation grâce au financement de la Banque mondiale à hauteur de 52 millions de dollars américains. Monsieur Amadou Moustapha Ndiaye, directeur des opérations de cette institution financière internationale en RDC, explique ici les enjeux de ce projet au micro de Gabriel Ouaminia.
Il y a deux types d'enjeux. D'abord, la Banque mondiale a pris un engagement ferme pour appuyer le gouvernement de la République démocratique de Congo dans ses efforts de stabilisation de l'Est. Et lorsqu'on parle de stabilisation, c'est là où intervient l'initiative des Grands Lacs qui, pour une première fois, a mis de concert les aspects de paix et sécurité avec les aspects de développement économique. Donc c'est là l'intérêt de la Banque mondiale, en fait, de participer à l'initiative des Grands Lacs. Et cet effort permettant justement de renforcer l'aéroport contribue à la stabilisation de l'Est de la RDC de deux manières. D'abord, pour des questions de sécurité, mais également par une contribution au développement économique.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Revenons sur la deuxième édition du grand concours d'art oratoire sur le droit de l'homme pour suivre cette question posée par une consoeur de la RTNC, suivie de la réponse.
Dédène Ndomba pour la RTNC Radio. Ma question, je l'adresse à Madame Belinda, rapporteure à la Commission nationale pour les droits de l'homme. Madame, quelles sont les universités qui sont choisies pour ces concours et puis pourquoi l'intérêt de ces concours?
Merci Madame pour votre question. Toutes les universités congolaises sont concernées, mais les universités légalement établies dans notre pays. Donc le jeu concours concerne les étudiants de toutes ces universités-là. Et l'intérêt, comme vous pouvez le comprendre, c'est de faire approprier la question des droits de l'homme à toute la population congolaise en commençant par la jeunesse. La Commission nationale des droits de l'homme, comme vous le savez, sa mission est de promouvoir la culture des droits de l'homme et c'est pourquoi nous nous sommes intéressés justement à participer à ce concours-là.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Sebou Jangui Mazembe Martin. Je suis le deuxième d'une famille de 7 enfants. Je suis marié. Mon épouse s'appelle Dr Jackie Makabouza, que je salue en passant. Je suis licencié en langue et littérature française de l'université de Lubumbashi, ce qu'on appelle couramment la Kasapa. J'ai obtenu mon diplôme de licence en 1993. Après Lubumbashi, je suis rentré donc à Goma. En 1994, c'est à l'époque avec l'entrée des réfugiés rwandais qui arrivent. Ils arrivent très très nombreux. J'ai beaucoup hésité d'embrasser une carrière à l'époque humanitaire parce qu'il y avait beaucoup de sollicitations pour faire partie des agences des Nations Unies ou des ONG internationales qui arrivaient donc dans cette ville de Goma à l'époque. En 1995, donc une année après, je me décide quand même de commencer quelque part une carrière professionnelle et c'était le journalisme. Et donc, en ce moment-là, j'ai eu de la chance d'être recruté parmi les premiers journalistes de ce qu'on appelait à l'époque la radio Agatasha, qui est en fait une initiative de la Fondation Suisse Hirondelle. Donc, en ce qui concerne ma carrière professionnelle, c'est là que vraiment je vais commencer le journalisme. Et comme simple reporter, c'était difficile au début, parce que bien entendu, je fais plutôt la langue et la littérature française, mais après, je me retrouve subitement journaliste. Heureusement pour moi, je vais bénéficier de plusieurs formations, et à l'époque déjà, avec de journalistes suisses comme Philippe Dainden, qui était le directeur du projet de la radio Agatasha dans la région, à Goma et à Bukavu, et qui va être finalement notre formateur, parce que c'était toute une équipe de journalistes à l'époque qui venait d'être recrutés localement à Goma et à Bukavu. Une année après, c'est la guerre qui va commencer avec l'entrée de l'AFDEL dans cette ville de Goma et dans toute la région de l'Est. Je vais me retrouver plutôt ici à Kinshasa en 97. On n'avait pas beaucoup de contacts avec la Fondation Rwandaise à l'époque. Donc là, je suis obligé donc de chercher de l'emploi ici à Kinshasa. Je rencontre en ce moment en 97 le PDG de la RTNC, José Kalangwa. Je rencontre celui qu'on appelait, portait le titre de secrétaire général de la RTNC, c'est Amouli. Ils me disent, mais toi tu es journaliste. Là, je vais être engagé, recruté à la RTNC, à la radio, comme reporter, comme présentateur également. En 98, je me souviens bien, j'étais très très intéressé plutôt aux actions humanitaires, hein, donc au travail de terrain. J'ai fait partie des membres du staff d'une ONG à l'époque, HCW, qui existe encore d'ailleurs actuellement, mais c'est une ONG partenaire déjà à l'époque avec l'UHCR. Donc là, je vais travailler comme chargé de communication pour cette ONG. Ça va me permettre de beaucoup voyager vers Mbujimayi. Ça me permettra aussi de découvrir le Bas-Congo. C'est un travail que je vais faire pendant 2 ans à peu près, jusqu'en 2001. En 2001, je reprends des contacts avec la Fondation Rwandaise, parce qu'en ce moment-là, on commence à parler d'une radio qui va arriver, qui va travailler au sein de la MONUC à l'époque. Et en 2002, c'est le projet qui se concrétise, c'est Radio Okapi qui commence, et on va faire partie des pionniers de Radio Okapi avec les autres collègues qui vont être engagés en ce moment-là. Donc j'ai le privilège d'avoir d'ailleurs présenté le tout premier journal d'information, donc c'était en Swahili. En 2003, une année après donc le lancement de Radio Okapi, il y a la rédactrice en chef de Radio Okapi qui me dit, voilà, Martin, le directeur apprécie beaucoup votre travail et on aimerait plutôt vous confier d'autres tâches. Donc déjà en 2003, je suis donc le secrétaire de rédaction avec Léonard. Puis 2006, je suis donc rédacteur en chef adjoint. Je fais partie du staff dirigeant, en tout cas au niveau de la rédaction, de Radio Capi. J'aime bien les sports, j'aime bien jouer au football, de temps en temps quand j'ai le temps. J'aime surtout aussi faire la marche tous les samedis, samedi ou les dimanches. Je le fais le matin, quand c'est le week-end, et quand c'est en semaine, je le fais dans la soirée. Dans mes perspectives d'avenir, je pense être fermier. Enfin, être fermier, c'est peut-être le souhait de presque tous ces gens de l'Est, hein, mais bon, travailler ferme, être de temps en temps dans le pâturage, dans les troupeaux.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un seul rendez-vous dans votre agenda, c'est rendez-vous à Matadi, au Congo central, du 26 au 27 octobre 2015. L'UNESCO organise un atelier sur les infractions de presse et les fautes à éviter en période électorale. Un atelier tout naturellement destiné aux hommes et femmes des médias et autres acteurs sociopolitiques de la ville portuaire. Nous voici à la fin de ce magazine coordonné par Jean-Pierre Elali Coco. Honoré Missenga était au reportage et une mise en onde signée André Mongou. Nadine Foulantimba vous l'a présenté. Merci de retrouver cette émission sur notre site www.radiocapi.net. Au revoir et bon dimanche à tous.